nous Seigneur, qui est si bon, qui nous remplit de grâce, de tout l'immense cadeau qu'il nous fait chaque jour. C'est seulement la santé, parce que quand on n'est pas malade, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies.
Amen.
Merci pour ton amour qui est le plus important. Tu nous aimais tellement. Si nos corps sont remplis de bouche, ce n'est pas assez pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, Seigneur, pour le petit cœur que nous avons donné. Accepte le Seigneur et continue à bénir l'Église. Au nom du Seigneur,
amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le prédicateur ce matin, c'est le pasteur Jean-Jacques, qui est le père spirituel et moral de cette assemblée. Partout, nous avons des pères. Et si vous refusez de grandir dans la vie naturelle, ou dans la vie spirituelle sans père, vous êtes sans père, vous êtes sans repère. Que vous êtes dans une perdition. Dieu sait pourquoi il a placé à côté de nous des pères physiques, mais aussi des pères spirituels, que nous devons honorer et que nous devons prier pour eux, pour qu'ils puissent vraiment être de bons pères. Acclamons le Seigneur pour son salut.
Alléluia. J'ai une petite fille qui a trouvé sur la vie de papy. Je suis sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Alléluia. Jean au chapitre 11, verset 1er. Jean 11, verset 1er. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 1er, où il est écrit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui moignit le parfum de Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne ronge point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et si quelqu'un marche pendant la nuit, il ronge parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et allons vers lui. De quoi Thomas, le légitime, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Quand Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour lui pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi je savais que tu m'exauces toujours, que j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé ?» Et on dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus à Marie et qui virent ce que fit Jésus-Christ en lui, et quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souvent sacrificateur, cette année-là leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt. Un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Amen.
Amen.
Voilà, nous avons, dans cette longue lecture, entendu ce témoignage concernant Lazare. Lorsqu'on s'adresse à Jésus, on lui dit « Celui que tu aimes, celui que tu aimes, malade. » Jésus l'aime, mais il est malade. Enfin, Jésus, vous le savez, mais Lazare. Je veux dire aussi peut-être à quelqu'un qui peut être accablé parce que souffrant de maladie ou d'autre chose, et parfois les gens peuvent se poser la question « Jésus m'aime-t-il ?» Et vous savez qu'il y a aussi des gens qui sont plutôt du genre chagrin, qui vont, plutôt que de vous consoler, vous dire que sans doute, si vous êtes ainsi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Lazare est aimé de Jésus. Alléluia.
Amen.
Bien-aimé, bien-aimé, Jésus t'aime. Tu as fait appel avec Dieu, Jésus t'aime. Combien même tu passes dans l'épreuve, Jésus t'aime. Il y en a d'autres qui ensuite se détournent, ça arrive, malheureusement. Vous voyez, quand il y a des difficultés, vous avez ceux qui se détournent, vous avez ceux qui critiquent, mais vous avez ceux qui sont là pour aider. L'Église, normalement, c'est effectivement le rassemblement de ceux qui sont là pour secourir, pour soutenir, pour aider, pour aimer.
Amen.
Alléluia. Et il nous a dit aussi, dans ce que nous avons lu, que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous savez à quel moment on a fait connaissance avec Marthe et Marie, c'est quand Marthe a reçu dans sa maison Jésus, et qu'elle s'est affairée pour le bien recevoir, et puis finalement elles sont peut-être un peu agacées, estimant que Marie aurait dû venir l'aider, alors elle fait observer à Jésus que ce serait bien que Marie se lève un petit peu. Et Jésus va dire effectivement qu'elle s'agite Marthe beaucoup, et que j'ai Marie à la bonne part. Alors, à partir de ça, je me suis dit, si on parle de Marthe et Marie, bien souvent, il va y avoir une préférence. Qui préférez-vous? Vous osez dire Marie. Ah, parce qu'elle a la bonne part. Marie, ah, c'est elle qui a raison. Eh bien, pour permettre de rétablir les choses, si je puis dire, vous savez, le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu, et donc il nous a dit que Jésus aimait Marthe. Et sa sœur, il ne la cite pas, on la connaît. Et sa sœur, et Lazare. Le but de Dieu, c'est que nous comprenions que Jésus aimait autant Marthe, de Marie, que
Lazare. Alléluia. Puisse-t-il y avoir ici au milieu de nous quelqu'un qui se distingue pour telle chose ou telle autre chose? Malgré tout, le Seigneur aime chacun de la même manière. Alléluia. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Et il nous est dit donc que Jésus aimait Lazare, dont on n'avait pas entendu parler jusqu'alors. Vous savez, il peut y avoir, et il y a malheureusement parfois, des gens qui font des différences. Ça peut même exister dans les maisons, dans les foyers. Et je soulignais cela pour dire qu'effectivement, nous, très vite, nous pouvons avoir une préférence pour telle personne, mais le danger serait aussi de rejeter ou d'ignorer l'autre. Il peut y avoir au milieu de nous des gens qui souffrent de cela, qui souffrent d'être comme invisibles, inconnus, incognito. Et je voudrais vous encourager, vous rassurer, le Seigneur vous connaît, mais nous devons tous nous apprécier, nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont fort peu mis en évidence, alors que d'autres sont mis en évidence, mais vous savez qu'il y a dans l'Église des gens qui ne sont peut-être ni trop visibles, ni trop audibles, mais qui sont présents, actifs et efficaces. Alléluia. Il y a des travailleurs, si j'ose dire, de l'ombre, vous comprenez, ce n'est pas. Et c'est que peut-être on ne les voit pas, mais qui sont assidus dans ce qu'ils font, et je veux bénir Dieu pour eux. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont acteurs dans l'Église, bien sûr, hein, mais je veux souligner qu'il y en a peut-être dont on ne voit pas effectivement ce qu'ils font avec régularité. Ça peut être dans l'aide sociale, ça peut être dans le ménage, ça peut être dans d'autres choses. Merci à eux. Merci pour eux. Alléluia. Et nous ne voulons oublier personne. Alors on retient que Marthe s'activait, tandis que Marie se tenait au pied du Seigneur Jésus comme une disciple, ce qui d'ailleurs est assez particulier parce que pour les Juifs, seuls les hommes peuvent être disciples. Alors Jésus accepte qu'une femme soit disciple. Alléluia. Et bien sûr que ce qui est dommage, c'est que Marthe, dans son activité, en soit peut-être venue à éprouver un peu de ressentiment, de mécontentement, parce que sa sœur ne faisait rien. Et ça peut être un danger pour nous, lorsque nous sommes dans l'activité, finalement, de venir à éprouver des sentiments négatifs à l'égard des uns des autres. Que le Seigneur nous aide à être actifs et toujours dans la joie du Seigneur. Alléluia. Mais dites-moi, pour le repas du 14, s'il y a zéro Marthe, on n'a rien mangé. Rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut bien qu'il y ait Marthe. Peut-être qu'elle s'active de trop, qui sait, mais en tout cas, ce qu'elle veut, c'est bien faire, bien recevoir. Et s'il n'y a pas Marthe, Jésus mange fort. Béni soit Dieu pour les Marthe. Son nom est significatif, hein? C'est maîtresse de maison, Marthe. Hôte, c'est elle qui accueille. Si vous lisez dans Luc, c'est elle qui accueille Jésus. C'est la maîtresse de maison. Et elle veille afin que tout soit bien comme il faut. Alléluia. Alors il faut trouver l'équilibre, effectivement, avoir du mari et du Marthe, si j'ose dire. Savoir aussi avoir le temps de contempler le Seigneur, parce que nous pourrions tomber dans l'activisme, et c'est un danger. Mais nous savons aussi que nous sommes appelés à agir, bien sûr. Alléluia. Attention au surmenage, bien sûr. Et attention, et justement, c'est pour ça que dans l'Église, c'est bien que tous puissent participer, afin que certains qui sont actifs ne soient pas amenés finalement à être usés par le fait qu'ils en feraient de trop. Donc, puissions-nous tous trouver notre place, notre participation dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, le Saint-Esprit, l'Évangile de Jean, mais c'est le Saint-Esprit qui est derrière, conçoit aussi de rappeler au sujet de Marie que c'est elle qui oignit le parfum du Seigneur. Une chose dont Jésus se souvient bien, et à cette occasion, il a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Amen. Elle a fait ça pour ma sépulture. Souvent, je l'ai dit, Jésus n'a pas rencontré tant de gens qui ont réjoui son cœur. humilité. Et je pense qu'il a été touché évidemment par les bonnes dispositions de cette maison, de cette famille. Et comprenez, dans cette famille, il nous a dit qu'il aimait Marthe, qu'il aimait la sœur de Marthe, c'est-à-dire Marie, et qu'il aimait aussi Lazare. Alléluia! Amen! Jésus aimait Lazare. Mais voyez-vous, si Lazare n'était pas mort, nous n'aurions pas entendu parler de lui. Marthe, Marie, on aurait ignoré Lazare. Il y a des gens, parfois, on ne sait qu'ils ont existé que quand ils ne sont plus là. Quand ils viennent à manquer, hein, parfois, qu'ils manquent. Alors, nous honorons tous ceux qui sont là. Et apprécions. Amen. Plutôt que d'attendre, de dire, ah, c'est dommage que je ne l'ai pas plus connu. Hein. Qu'est-ce qu'il était bien? Amen. Qu'il y ait cette communion fraternelle, cet intérêt réciproque, que nous puissions apprécier ce que sont les uns et les autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peut-être que Lazare, finalement, il est discret. Vous avez des gens qui sont discrets. Vous pouvez avoir des situations où des gens sont étouffés. Soit dans un couple, il y en a un qui domine largement. Et quand l'enfant fait un dessin, il y a un personnage qui est très haut. Et une petite maman ou un petit papa. Les enfants, les dessins des enfants sont révélateurs. Parfois, c'est l'enfant lui-même qui passe le dessin. Parce qu'on lui veut faire son frère, sa sœur. De nos groupes, parce que c'est la question des groupes en septembre. Soyez équilibrés, alléluia. Amen. Mais peut-être quelqu'un souffre d'être étouffé, de ne pas pouvoir s'exprimer. Je me rappelle un couple où, quand le mari voulait parler, aussitôt, madame, prenez la parole. Rien dire. Il essayait parfois, je pense qu'il a fini par se dire, ça sert à rien. Elle le coupait, elle savait mieux que lui, elle avait mieux l'expliquer que les autres que lui. Mais ça peut être l'inverse, vous comprenez?
Amen.
Alors je ne dis pas, c'est une supposition, hein, c'est une idée, je parle de ça pour évoquer ces choses, mais voilà, je ne sais pas qui était Lazare exactement. Hein. Mais en tout cas, voilà, Jésus l'aimait. Ça, je veux revenir là-dessus, peut-être quelqu'un se sent, qui sait peut-être oublié, a du mal, vous savez aussi, parfois les gens, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à aller vers l'autre, qui ont tendance à se replier, se recroqueviller, se tenir à l'écart. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus nous aime. Amen. Alors Lazare est un bien-aimé, mais la maladie, enfin, ce sont des choses qui arrivent. Enfant de Dieu, frappé par la maladie, frappé par différents problèmes. Et nous observons que quand Jésus est informé de la situation, il ne se presse pas. Il ne se presse pas. On a compris, parce que, on a tout lu, donc on sait pourquoi. Mais sinon, on pourrait dire, quand même, là, il y a une urgence, quoi. C'est pas le moment de perdre du temps. Vite, vite, Jésus! Vous savez, on aime bien que le Seigneur nous répond vite. À la messe, quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est une question que je vous pose, que nous nous posons, hein, est-ce que nous répondons aussi vite que ce que nous attendons de la part des autres, par exemple? Parfois, on attend que les autres se pressent, s'empressent pour nous. Est-ce qu'on a le même empressement? Et pour servir le Seigneur, est-ce qu'on a ce même empressement? Jésus prend son temps, mais Jésus, bien sûr, est maître du temps et il sait évidemment pourquoi il prend son temps. Et donc, à un moment donné, Jésus prend la décision de se rendre auprès de cette famille qu'il aimait. Et à ce moment-là, nous avons l'objection les disciples qui lui disent, de toute façon, c'est pas le moment, faut pas y retourner, il y a du danger, les gens te menacent, c'est trop risqué, on va pas y aller, c'est risqué, puis finalement ça sert peut-être à rien. Jésus va y aller. Alléluia. Alléluia. Il y a des risques. Jésus connaît les risques. Jésus va aller. Il sait très bien ce qui va arriver, que ce qu'il va faire, le fait qu'il va ressusciter Lazare, ça va attiser plus la haine encore de ses ennemis et d'une certaine manière que la résurrection de Lazare va précipiter la mort de Jésus. Mais il est prêt à prendre le risque parce qu'il sait aussi pourquoi il est venu. Mais la question que je me pose et que vous me posez, c'est que je suis prêt à prendre le risque pour le vérifier. Le danger de l'Église aujourd'hui, c'est le confort. C'est le confort. C'est de s'installer dans un confort et de ne plus trop vouloir se mouiller, de ne plus vouloir prendre trop de risques, de ne plus vouloir trop déranger, alors que nous devons toutefois professer le message de l'Évangile, alléluia, parce que c'est une question vitale. Le danger, c'est finalement de rester, de ne pas bouger, de ne pas oser, de ne rien entreprendre, alors que le Seigneur veut que nous entreprenions. Nous savons que l'Église primitive qui aurait pu être conduite finalement à rester là où elle était, et le Seigneur a suscité une persécution pour les obliger à quitter Jérusalem et aller évangéliser le reste de la terre comme le Seigneur leur avait demandé. Vous savez, il y a un danger, c'est de faire des réunions. Parfois je dis ça en riant, mais on fait une réunion pour programmer la prochaine réunion qui sera la réunion qui programmera la réunion au cours de laquelle on décidera de peut-être sortir faire ceci ou faire cela. Dans le monde d'aujourd'hui, vous avez les réunions post-it. Vous en avez fait ? J'en ai fait deux, trois, ça amuse. Alors, on réunit les gens pour dire qu'ils vont participer. Alors voilà, vous allez noter sur un post-it ce que vous pensez. Les post-it jaunes, c'est ceci. Les post-it orange, c'est ça. Après, ça prend du temps, hein, 6 heures au moins. On met des post-it à droite à gauche, on les réunit. Et à la fin, on dit voilà ce qui en ressort. On aurait pu le dire en 10 minutes. Et je crois qu'il y a même une réunion à sens à laquelle je n'ai pas participé, où en fait, après les post-it, les gens se sont dit que finalement tout était réglé d'avance, on nous a demandé notre avis, mais finalement, c'est juste pour dire qu'on a participé, c'était fait d'avance. L'Église ne doit pas devenir une Église post-it. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et que le Seigneur permette que l'Église soit efficace, active, pratique. Dans un monde qui a besoin, tellement besoin de connaître le message d'amour de Dieu. Alléluia. Alors Jésus sait évidemment ce qu'il attend, mais Jésus va se rendre auprès de ceux qu'il aime, non seulement parce qu'il a le dessein évidemment de ressusciter Lazare, mais en même temps il sait que c'est un témoignage, à la fois pour cette famille, pour ceux qui sont là, et pour nous aussi aujourd'hui, un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand Jésus est là, les gens se disent, finalement, c'est quand même dommage, s'il avait été là, lui, il peut guérir les malades, mais. Et pas plus. Les gens ne pensent pas qu'il puisse faire plus. Et parfois, nous limitons nous-mêmes le Seigneur. Hein. Nous limitons le Seigneur, mais au regard de ces passages, nous savons de quoi Jésus est capable. Il peut même ressusciter la mort. Alléluia! Alléluia! Lorsqu'ils l'ont vu pleurer, ils ont dû se dire, oui, on avait raison, vraiment, là, il ne peut plus, il ne peut que pleurer. Lorsque Jésus a été touché, évidemment par la douleur des bien-aimés qui étaient là, je crois aussi qu'au-delà, Jésus est touché sans tous ceux qui meurent sans Dieu. Et ce n'est pas parce que Jésus est incapable de ressusciter un mort que Jésus pleure. Ce n'est pas un constat d'échec, c'est autre chose. Jésus peut tout. Alléluia! Il faut que nous le croyions tout à nouveau, finalement. Il faut que l'Église renoue avec cela, avec la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus, cette capacité que Jésus a, non seulement à ressusciter des morts, mais aussi finalement transformer des vies. Parce que je crois que dans l'Évangile de Jean, beaucoup de choses ont été écrites aussi pour constituer un signe. Avant cela, Jésus avait redonné la vue à un aveugle. Alors on peut dire, s'il a pu redonner la vue à un aveugle, c'est merveilleux, mais pourrait-il ressusciter un mort ? Jésus peut ressusciter un mort. Mais finalement, ces choses, nous parlons aussi de l'état d'Israël, de l'état d'un peuple, un peuple qui devrait voir et qui ne voit plus, un peuple qui est devenu aveugle concernant l'évangile, concernant le message de Dieu, concernant la volonté de Dieu, et un peuple qui finalement est comme mort. Et c'est ça qui est terrible, c'est que Jésus constate que ce peuple qui se croit vivant, spirituellement mort. Vous connaissez dans les sept églises d'Asie, quelle est celle dont il est dit qu'elle passe pour être vivante et qu'elle est morte? C'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, elle passe pour être vivante, mais elle est morte. Peut-être que quand on rentre dans cette église, on se dit c'est vivant, ça bouge. Waouh! Que l'église, c'est pas un signe, hein, c'est pas suffisant. Parce que la chair bouge. Il faut que ce soit la vie de Dieu et non pas la vie de la chair. Alléluia. Il peut y avoir de l'apparence, il peut y avoir du semblant, on peut même se croire soi-même vivant spirituellement alors qu'on ne l'est pas peut-être. Et c'est pourquoi c'est important d'examiner si nous avons la vie de Dieu en nous, si nous vivons l'évangile, si nous avons été transformés par la puissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas qu'on dise de notre assemblée qu'elle passait pour être vivante, mais qu'elle ne l'était pas. Nous ne pouvons peut-être parfois faire le constat vis-à-vis des autres, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est plutôt d'examiner où nous en sommes, quant à la foi, collectivement, mais aussi individuellement. Alléluia. Je souhaite que nous soyons vivants de la vie de Dieu. Amen. Il y a parfois des illusions. Et ça peut tromper les autres, mais on peut se tromper soi-même sur son propre état. Ce serait le pire, hein? C'est pourquoi au Corinthiens, il leur a demandé de s'examiner, et je crois qu'il faut nous examiner. Mais en même temps, évidemment, nous comptons sur l'assistance du Saint-Esprit et nous voulons vivre la vie du Seigneur. Alléluia! Vivre la vie de Dieu. Amen! Vous savez, au travers de tout cela, ce que l'on constate, c'est que quand bien même Jésus est venu, quand bien même il a accompli des choses remarquables, des guérisons, des transformations de vie, bien sûr, nous avons ces résurrections aussi, comme nous pouvons le voir ici, pour autant, toute la nation d'Israël ne s'est pas réveillée. Seulement quelques-uns. Et Lazare, ça illustre le fait que le salut, évidemment, c'est individuel. On aimerait que la France entière se tourne vers Dieu. Alléluia. Mais en fait, on sait que c'est individuellement. Et béni soit Dieu pour le résidu qui appartient au Seigneur. Amen. Nous souhaitons faire partie de ce résidu. Alléluia. Et je voudrais évidemment insister sur le fait que si quelqu'un au milieu de nous n'a pas fait la paix avec Dieu, n'a pas connu le Seigneur, n'a pas connu le message de l'Évangile, je souhaite vraiment que vous puissiez repartir de ce lieu en ayant rencontré Jésus, en ayant connu ce qu'il a fait pour vous. Parce que finalement, Jésus, ici, ressuscite un mort, mais Lazare, bien que ressuscité, n'est pas sauvé tant qu'il n'a pas connu l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Il fallait que Jésus meure. Ce sont nos péchés qui l'apportent. Ce sont nos maladies, bien sûr. C'est tout ce qui fait que nous étions égarés, loin de Dieu. Ça peut être même la religiosité dont nous étions enrobés et qui nous séduisait, nous trompait. Et Jésus veut nous libérer de ces choses afin que nous ayons la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que c'est important. La Sainte Cène est là pour nous rappeler. Mais on peut prendre aussi la Sainte Cène par habitude. Or, il faut qu'on le prenne avec discernement. Nous rappelons l'œuvre de la croix. Ce qui est central pour nous, c'est la croix de Golgotha. Alléluia. C'est l'œuvre de Jésus. Sa mort, mais aussi sa résurrection. Lazare est mort et Lazare n'a pas la force en lui de reprendre vie. Parce que le péché a pouvoir sur l'homme et le péché donne un pouvoir à la mort, et Jésus sans péché. Jésus sans péché, la mort ne peut pas triompher. Il a triomphé de la mort. Et c'est grâce à son sacrifice que nous sommes sauvés, que nous pouvons être sauvés. Alléluia. Amen. S'il a fallu, rappelons-le, qu'il souffre. On réalise tout ce qu'il a subi. Et tout le fouet, il y en a qui étaient déjà morts au bout du 40 fouet. C'était fait pour déchiqueter le corps. Et dans cet état-là, Jésus vit encore. Jésus doit porter une croix. Et Jésus voulait être crucifié. ça nous parle de l'intensité, la grandeur de notre péché, nous avons le temps de la grâce de Dieu. Et si nous y puisons, évidemment, nous comprenons et nous confessons que nous sommes pécheurs, et si ça nous amène à la repentance, en même temps, ça nous conduit aussi à la joie du salut, parce que nous savons que s'il a payé un tel prix, c'est par amour pour nous. Amen. Et dès lors, bien, nous pouvons avoir l'assurance sur la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Et si peut-être, alors que nous attendons telle ou telle bénédiction tarde à venir, qui sait, Dieu sait pourquoi, Dieu sait à quel moment ça se réalisera, parfois même Dieu sait comment ça se réalisera, parce que parfois on a demandé quelque chose, Dieu a fait autrement, et après on se dit, waouh, heureusement, c'était tellement mieux. Alléluia. Et quoi qu'il en soit, et quand bien même, eh bien, quelqu'un serait ou dans l'impatience, ou peut-être à se poser la question pourquoi ces choses ne sont-elles pas survenues, ou pourquoi telles et telles choses sont-elles survenues dans ma vie, pourquoi moi ? Jésus. Alléluia. Ça, c'est précieux. Alléluia. Amen. Jésus était physiquement loin, aujourd'hui, Jésus n'est pas loin, bien sûr. Nous savons qu'il est au contraire auprès de nous. Le Seigneur puisse nous encourager véritablement à réaliser et à vivre cela. Et si, encore une fois, je dis quelqu'un peut se trouver dans un moment délicat, un moment difficile, un moment de questionnement, un moment de doute, pour rappeler Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a tardé, mais Jésus est intervenu. Jésus a voulu, au travers de cela, effectivement, donner un enseignement à ceux qui étaient avec lui. Les disciples même ne croyaient pas, évidemment, qu'ils puissent guérir et qu'ils puissent surtout ressusciter la mort. Au fur et à mesure, ils ont appris. Alléluia. L'Église retrouve cela. Amen. Nous retrouvions cela. Que l'Église soit prête à être militante, à témoigner. Il y a très longtemps maintenant, j'étais amené à rencontrer des gens qui étaient militants dans des domaines où, franchement, je ne sais pas quoi, mais bon, ça paraissait bizarre. Mais au moins, ils étaient tellement convaincus. Et justement, l'une d'entre elles me dit mais vous, elle n'était pas chrétienne. Elle me dit et vous alors, si vous y croyez tellement, j'ai vous. Méritez. Et ça interpelle. Ça interpelle. Il y aura des gens qui se railleront, qui se moqueront, qu'importe. Si nous savons que c'est la bonne cause et nous le croyons, alléluia. Alors le Seigneur va agir parce que le Seigneur veut encore se couvrir, il veut encore sauver. Amen. Amen. Donc voici Lazare le bien-aimé. Vous savez le nom de Lazare, puisque je vous ai parlé de Marthe. Marthe, c'est la maîtresse de maison. C'est l'autre, c'est celle qui est accueillante. Lazare, c'est Dieu a secouru. Dieu a secouru. J'aime bien Dieu a secouru. J'aime encore mieux que Dieu m'en secours, parce que Dieu a secouru, il l'avait. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cet autre Lazare. Cet autre Lazare. Oh, quelle misère, ce mendiant. Puisse l'avoir. On devait se dire, ses parents ont gaffé quand même, l'appeler Dieu mon secours. Franchement, s'il y en a un qui porte trop bien son nom, c'est celui-là. C'est le regard de l'homme, ça. C'est le regard de l'homme. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui ont le regard sur sa face, sur son côté, c'est très bon. J'ai lu l'ouvrage d'un pasteur, franchement, il avait un regard sur les gens qui étaient malades et autres, c'était infect. D'abord, c'était un livre infect. Je me dis, ce Lazare, cet autre Lazare, peut-être on en venait à dire qu'il ne portait pas son nom et qu'il devait se tous s'égarer en plaçant sa foi dans le Seigneur. Quand il est décédé, les anges sont venus. Il faudrait voir de l'autre côté. Qu'est-ce que le riche? Ça a été riche du côté de la terre, mais malheureusement, il a été perdu. Alors, oui, quelqu'un peut. Et l'apôtre Paul souligne aux Corinthiens, certains sont esclaves parmi vous. S'ils peuvent devenir libres, tant mieux. Mais quoi qu'ils en soient, peu importe qu'ils demeurent esclaves sur la terre.
qui sont des enfants et des bien-aimés du Seigneur.
Alléluia. Ne prenons pas le risque de mépriser les uns les autres sur ce qui est selon les critères humains. Parfois, nous évaluons les choses selon les critères qui sont les nôtres, ceux des hommes, et nous cherchons les critères de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à avoir un autre regard sur l'autre, quel qu'il soit, et combien même serait-il effectivement quelqu'un qui est perdu. Dieu veut le sauver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, béni soit Jésus pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore. Puisqu'il est question, je termine par là, de résurrection. Ce n'est pas simplement peut-être la résurrection physique, c'est la transformation du cœur. C'est la régénération. C'est être désormais une nouvelle création. C'est une forme de vie nouvelle. C'est une forme de recréation. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Pas être des adeptes ou des adhérents d'un mouvement, des hommes et des femmes qui ont été visités par le Seigneur, qui ont été touchés par l'Évangile, qui ont été transformés par l'Évangile, de telle sorte que l'on puisse dire il y a un avant, mais il y a un maintenant. Ce n'est plus la même personne. Elle n'agit plus de la même façon. Elle ne pense plus de la même façon. Elle a été transformée. Alléluia. Je souhaite que les gens qui viennent puissent constater et dire, eh bien, nous voyons la différence. Si l'Église ressemble au monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si les chrétiens ressemblent au monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que nous puissions manifester l'amour de Dieu, manifester le témoignage, tout ce qui a trait aux attributs de Dieu. Ils nous sont en partage par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marie. Amen. Amen. Voilà. Et Jésus aime son Église. Jésus aime chacun dans l'Église. Nous avons besoin certainement aussi nous-mêmes d'apprendre justement à regarder l'autre avec le même regard que le Seigneur, à aimer de la même manière que le Seigneur. Quand on regarde l'Église primitive, c'est quand même ça qui caractérise l'Église primitive. C'est d'accord avec moi. C'est la communion fraternelle. Alléluia. Je puisse voir ceux qui se tiennent à l'écart, voir que la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est le rassemblement pour la solidarité, pour être concerné par ce qui arrive aux autres, ce que nous voyons aussi, mais au loin aussi. Mais vous savez, parfois, c'est plus facile de se dire concerné par ceux qui sont loin que par ceux qui sont auprès. Et bon, déjà, ceux qui sont là, alléluia, mais aimons aussi les autres, et aimons les incroyants. Amen, puisque Dieu nous a aimés avant même que nous le connaissions. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à avoir certainement un autre regard sur les choses, sur les circonstances, une autre considération des personnes. S'il y a quelqu'un qui peut-être au milieu de nous se sent un peu isolé ou a tendance à s'isoler, que cette personne puisse vraiment être visitée par toi et qu'on puisse en tout cas l'encourager aussi. Il y a un regard positif, Seigneur, qui est dans l'Église évidemment à la fois la contemplation mais aussi l'action, que l'Église soit actrice dans la société, actrice dans cette société, dans ce monde, que nous puissions être les porteurs de flambeaux, Seigneur, dans une génération qui est totalement égarée, qui a besoin de connaître l'Évangile. Seigneur, nous ne voudrions pas passer pour être vivants, pour ne pas l'être, nous voulons porter la vie de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je te bénis pour l'Église, je te bénis pour les bien-aimés, pour les frères et les sœurs, quel qu'il soit, Seigneur, c'est vrai que parfois nous pouvons prendre le risque de considérer les gens par rapport à ce qu'ils font, mais nous voulons considérer chacun en particulier, Seigneur, et apprécier ce qu'il est. Seigneur, sois béni, sois loué, merci pour ton amour, merci pour le relèvement, parce que je crois que ce matin tu veux encourager, tu veux relever, tu veux guérir aussi, tu veux procéder à des transformations de vie, à ta puissance, Seigneur, plus que tout, alors Seigneur, nous te bénissons. Nous avons vu que, Seigneur, ce que tu as fait a suscité plus de haine encore. Seigneur, et ça, nous n'ignorons pas qu'il y a des gens qui seront toujours hostiles, que le diable aussi n'aimera pas voir l'Église s'engager dans ce que Dieu lui a préparé par avance. Et Seigneur, nous savons une chose, c'est que tu seras toujours avec nous. Je veux bien savoir pour ça. Seigneur, vraiment, tu as secouru. C'est ce que tu es pour nous, notre secours. Merci. Amen.